sortir là. Allez là.
Sortez, ça fait trop du bien. Ça dégourdit les jambes, allez-y.
J'adore ça. Moi je sors tout le temps.
Mais putain, ça sort de chez vous,
encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Les t-shirts d'herbe, sortez.
Oui, alors oui. Franchement, c'est trop chouette.
C'est
en
culture.
Allez-y, quoi.
Sortez.
Sortez.
Sortez, c'est cool.
Sortez les jambes.
Ok, vous voulez sortir?
Au chien bleu, chez le béto,
si vous voulez sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Sortis tous avec nous.
Sors!
Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, c'est l'heure de sortir la quotidienne socioculturelle étudiante number one dans vos cœurs. Et aujourd'hui, petite émission chill sans pression.
Oh ouais, il n'y a pas de pression. Voilà, je parle fort.
Ouais, il bugle dans
ouais, le micro. Ouais, je suis là, genre, avec ma, voix, ma grosse voix. Tu sais, genre. Oui, émission bah, simple, mais ouais, correcte.
Mais correcte et divertissante.
Ouais, ouais, bah,
je vais dire diversifiante, n'a rien à voir.
Ça ne va pas être à nous de juger. Hein, c'est voilà, aux spectateuristes, aux auditeuristes. Finalement,
c'est ça.
De nous. Je fais des efforts quand même pour la radio, quand même. J'essaie de même dans mon langage, je suis pixel en fait.
Et nous ne sommes évidemment pas seuls, nous sommes aussi accompagnés de notre rescapé, de notre équipe de chroniqueurs finalement. Mesdames et messieurs, Paul.
Il n'y a plus personne.
Paul, Vincent Crusoe. Merci. Le dernier pour une dernière.
Ah, c'est
exactement,
ça.
Exactement, exactement.
Et qui va nous faire sa dernière chronique, la revue géographique.
Ouais.
Pour notre plus grande tristesse, malheureusement.
Ouais, mais après, il faut bien que. Voilà, c'est le cycle naturel de la vie.
Les oiseaux quittaient leur nid.
Oui, exactement. On va le retrouver sur France Inter, on va dire c'était nous au début. Hein.
Nous first.
Et pas cette prétention.
Ah, ok. Ok, ok, bah, excuse-nous.
Mais non.
C'est bien d'avoir de l'ambition. Qu'est-ce qu'il y a?
Est-ce que tu peux augmenter le casque, s'il te plaît?
Ah oui, tu n'as pas de retour, c'est ça? Tu n'entends
merci
rien.
Merci beaucoup.
Ça va mieux là?
Beaucoup mieux.
Très bien. du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Paul, est-ce que tu veux nous teaser un peu avant de commencer ta chronique? Parce qu'on va mettre un petit titre, petite pause musicale avant de commencer ta chronique. Est-ce que tu veux nous teaser ou tu gardes ça pour après?
Ah bah si, on va teaser un petit peu.
Yeah.
On va teasing.
Tenir un peu en haleine les auditeurs.
Carrément.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un pays qui bien connu de tous, qui est l'Inde. J'ai choisi cette fois-ci de rester assez basique. On a visité l'Ouganda dernièrement, on avait visité la Géorgie aussi. Aujourd'hui, on va aller en Inde. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques temps de cela, l'Inde est devenue le premier pays en termes de population du monde. Et il s'est passé aussi pas mal de choses en interne, notamment en ce qui concerne la politique. Donc, on va en parler aujourd'hui.
Okay.
C'est l'Inde qui nous intéresse.
Ouais.
Okay, très bien. Eh ben, on va se mettre pour commencer un titre tout doux. Sortez non pas l'émission, mais les mouchoirs. Ben ouais.
Wow.
vous allez déguster non pas une patate dans vos beaux visages, mais un délice finalement angélique, un cupcake sucré-salé avec des notes umamifiant même jusqu'au bout des doigts. C'est le titre fraîchement sorti aujourd'hui. Did you know, le savez-vous, de Alabaster de Plume. Je connaissais pas, mais bon, il y a quand même des streams, donc voilà, je suis peut-être inculte finalement. S'accompagnant de la chanteuse Momoko, Gil, le duo nous livre sur un plateau de diamants une œuvre pixel, comme j'ai l'habitude de dire, parfait pour débuter une sieste sous l'ombre d'un grand chêne, voire faire un gâteau finalement dans la maison familiale, tu vois, un peu comme ça, un peu on est chaleureux, ou même. Ouais, je le dis parce que c'est bientôt la fin, mais faire l'amour avec votre moitié.
Wow.
Tu vois, un truc un
peu mood, quoi.
Un peu mimi sensuel, c'est très chill, c'est très cool.
Une caresse antillaise.
Ouais, voilà, c'est ça, et on y va, quoi. Alabaster, du coup, de Plume avec Momoko Gil, Did You Know, et on revient juste après pour la chronique de Paul. Restez avec nous dans Sortez.
Did you know? Did you know? From the way you found me. like the sun that never thinks before it shines on me.
Voilà, du coup, vous avez pu assister à Did You Know, chanson de Alabaster de Plume et de Momoko Gill. C'était Pixel. Moi, je me suis régalé, même si j'ai pas tout écouté parce qu'on parlait dans le studio. Mais tranquille.
Il l'avoue, c'est bien.
Ouais, j'avoue.
Tu fais pas de mec, c'est bien.
Non, j'avoue.
T'es un honnête gars.
Je suis un vrai, moi. Vous êtes toujours dans Sortez sur Radio Campus Tour et maintenant. C'est toi qui présente peut-être ou c'est moi?
Vas-y, j'étais lancé.
C'est l'heure d'écouter du coup notre chroniqueur Paul, le rescapé comme on disait en début d'émission, qui va nous amener sous son aile pour un tour du monde géographique. Là, on va plutôt parler de l'Inde. C'est l'heure de la revue Géo de Paul. À toi, Paul.
C'est joliment dit, Antoine. Eh bien, une dernière fois, je vais présenter la chronique de la revue géographique. Il faut poser aussi ses bases. Donc, la revue géographique, c'est une chronique dans laquelle on traite d'actualité, d'histoire, de culture ou encore de géopolitique. C'est à travers un regard de géographe que nous tentons dans cette chronique de relater des faits d'actualité qui ont fait couler de l'encre dans les journaux et dans les médias, avec un objectif de donner goût aux auditeurs de Radio Campus à l'exploration des questions internationales contemporaines que recèlent la géographie et l'actualité. Il y a maintenant plus de 2 semaines, nous avions quitté le Pakistan et avons découvert l'Ouganda et les manœuvres politiques hostiles aux droits humains du chef d'État Yoweri Museveni. Aujourd'hui, nous faisons le chemin inverse et retournons dans le sous-continent indien, mais avec une différence. Nous accostons non pas à Lahore, mais à Mumbai. Bienvenue en Inde. Après 2 années de difficultés liées à la pandémie du Covid-19, les écoliers indiens, du nombre de 230 millions, soit plus que la population entière du Nigeria, ont repris le chemin de l'école en avril 2023. Des aménagements ont été effectués pour pallier les carences pédagogiques découlant de cet éloignement forcé des écoliers à la scolarisation, dont un qui ne manque pas de faire débat dans une partie de la société indienne et dans le monde. En effet, des passages de l'histoire indienne mentionnant l'assassinat de Gandhi ou l'histoire des Moghols, ces dynasties musulmanes ayant façonné l'histoire indienne dans ses origines, ont été effacés des manuels scolaires par le Conseil national de la recherche pédagogique et de la formation. C'est un organe de l'éducation nationale indienne. Au nom d'une rationalisation du programme scolaire, c'est-à-dire un allègement de ce programme. Une partie de la presse indienne et de la presse occidentale s'insurge face à cette modification du programme scolaire qui serait effectuée de manière partisane et dans le sens des aspirations du gouvernement actuel du Premier ministre indien Narendra Modi à la diffusion du nationalisme hindou. Au cours des 5 premières revues géographiques, les auditeurs les plus assidus de Radio Campus Tour auront remarqué qu'un mot revenait fréquemment dans les présentations que nous avons pu produire dans le cadre de cette chronique, le terme « démocratie ». Que ce soit au Brésil, au Cameroun, en Géorgie, au Pakistan et en Ouganda, quand on évoque un sujet d'actualité en mobilisant la géographie, le terme « démocratie » nous brûle la langue et est mentionné. Audrey et Antoine, ouvrez grand les oreilles. Nous allons poser les bases de ce qui constituera le décor sémantique de notre épisode en définissant ce terme de démocratie. Mmh. Une démocratie, tirée du grec « demos » signifiant « peuple » et « kratos » signifiant « pouvoir », se définit originellement, au regard de la discipline des sciences politiques, comme étant un idéal politique fondé sur la participation des citoyens. Ce terme a fait l'objet de multiples évolutions au fil des années et désigne plus un système social propre à ce qu'on appelle un état-nation, c'est-à-dire un cadre territorial servant à la construction d'une identité nationale, où sont fondés les principes d'implication des citoyens, de délibération, c'est-à-dire de qualité du débat public où les contradictions et les oppositions y sont permises, de compétition politique libre et de limitation des pouvoirs. L'Inde se réclame avec fierté de sa substance démocratique, comme l'en atteste la sortie du Premier ministre indien Narendra Modi qui déclarait, lors du sommet des démocraties, organisé à Washington en mars dernier, que l'Inde est, je cite, « la mère des démocraties ».
Rien que ça.
Petite interro surprise dont j'ai le secret, connaissez-vous le nombre d'habitants en Inde ?
Trop.
Alors attends, s'il y a 230 millions
d'écoliers, il n'y a pas genre, ça se compte en milliards, non ?
Ça se compte en milliards.
Ouais. Je dirais 5.
5 Alors, milliards, mais non.
Non. Mais non. Milliard,
genre, 10 milliards.
Nous sommes 7 milliards.
C'est vrai qu'on est 7. Mais oui, mais attends, mais ils sont, c'est, en vrai, c'est une grosse part de la.
Moi, j'aurais dit 1,2.
Moi, je dis 3.
Vous êtes pas loin, le nombre est gargantuesque en tout cas puisqu'ils sont 1,4 milliard d'habitants.
Ouais, c'est énorme.
Donc, comme le déclare Modi, c'est effectivement la plus grande démocratie du monde par son nombre d'électeurs. 900 millions d'Indiens se sont rendus aux urnes lors des élections générales de 2019, un record absolu. Ouais. Derrière ce bilan statistique, l'Inde peut se targuer d'un rôle de modèle démocratique malgré son jeune âge et l'élaboration récente de son état-nation. Mais du point de vue de la pratique et des principes fondamentaux de la démocratie qui ont été précédemment énoncés, l'ère musicale démocratique indien dérive vers l'autocratique. Un portrait géohistorique de l'Inde s'impose avant toute chose pour comprendre. L'Inde, pays riche en culture linguistique et ethnique, forte d'une diversité de paysages grandioses des plateaux himalayens au littoral de la mer du Bengale, et où les vaches sont des animaux vénérés pour leurs vertus religieuses, est un pays situé sur un territoire de plus de 3 millions de kilomètres carrés, bordé par la mer d'Oman à l'ouest, l'océan Indien au sud et donc le golfe du Bengale à l'est. Sa capitale est New Delhi et les villes telles que Bombay, Calcutta ou Chennai forment les principaux foyers de population indien. Il s'agit évidemment du pays le plus peuplé du monde avec donc 1,4 milliard d'habitants et suit le rythme de progression affolant mensuel d'1,5 million d'habitants en plus par mois.
Voilà.
Appliquez ça à la France et ça fait 67 millions, puis 68 millions et demi, puis 70 millions par mois. Économiquement, l'Inde, qui était hier une puissance émergente, figure aujourd'hui comme une machine économique très dynamique, avec un PIB équivalent à des puissances occidentales telles que la France ou la Grande-Bretagne. L'histoire contemporaine de l'Inde, empreinte de quelques similitudes avec le Pakistan que nous avons vu il y a maintenant plus d'un mois, est bien entendu marquée par son chemin vers l'indépendance dans la première moitié du XXe siècle. L'Inde est initialement, depuis l'histoire moderne et contemporaine, une colonie britannique. La fin des années 1870 voit naître les premiers symptômes nationalistes dans la société indienne colonisée, avant que se concrétisent au cours des années 1910 et 1920 les premières actions émancipatrices des Indiens sous l'égide du Mahatma Gandhi. La figure mondialement connue de cet homme politique indien anticolonialiste, œuvrant pour une unité entre les musulmans et les hindous, les deux confessions religieuses majeures en Inde, notamment l'hindouisme, a joué un rôle déterminant dans l'accès à l'indépendance de l'Inde. Gandhi a notamment impulsé des hartals, c'est un arrêt de travail, visant à paralyser l'activité indienne en guise de contestation contre les colons britanniques, et fut à l'origine d'un mouvement de désobéissance civile au joli nom de Satyagraha, en 1930, contre le monopole gouvernemental exercé sur la vente de sel. Plus de 15 années plus tard, l'Inde est indépendante en août 1947 et se retrouve confrontée au défi de l'édification d'un État-nation. En 1950, la Constitution est rédigée sous un autre homme fort de l'histoire indienne, Nehru, ce dernier énonçant les principes fondamentaux du pays, à savoir démocratie, laïcité et égalité. La vie politique indienne est construite par le primat du Congrès, parti politique au contrôle du pays de Nehru jusqu'à son déclin sous le gouvernement d'Indira Gandhi dans les années 80. La première alternance politique a lieu en 98 avec la montée du nationalisme hindou incarné par le BJP, c'est le parti de l'actuel Premier ministre Modi, et l'entrée au pouvoir d'un certain Vajpayee. L'hindoutva, ou hindouité, se fixe ainsi dans les logiques identitaires et politiques de l'Inde, et des persécutions ont lieu dans l'état du Gujarat, où Modi était alors gouverneur, contre les musulmans en 2002 avec la mort de plus de 2000 individus. Le Congrès regagnera le pouvoir en 2004, avant que le BJP de Modi n'en reprenne le contrôle en 2014 jusqu'à maintenant, avec les élections générales de 2024 en ligne de mire. Retour en 2023. Les élections 2024 représentent un enjeu important pour le BJP et Modi. Ce dernier peut gouverner pour un troisième mandat consécutif et, compte tenu des récentes actions menées par le gouvernement Modi à la tête de l'État, la perspective que l'Inde se transforme en régime autoritaire, c'est-à-dire un régime où toute forme d'opposition au pouvoir est réprimée, n'est pas une illusion. Et la censure de faits historiques passés, dans les manuels scolaires, n'est pas une exception. Récemment, le représentant du Congrès, donc le parti politique dont je vous ai parlé précédemment sous Nehru, Rahul Gandhi, concurrent direct à Modi pour 2024, a été condamné pour avoir attaqué le nom de famille Modi en 2019 en étant démis de ses fonctions de député et interdit de concourir aux élections de 2024. Son juge n'était autre que l'ancien avocat d'Amit Shah, ministre de l'Intérieur et bras droit de Narendra Modi.
D'accord.
Le politologue Gilles Vernier décrit ce fait juridique de légalisme autocratique par la mise à l'écart des opposants politiques en usant d'outils juridiques. Enfin, les médias, contre-pouvoir essentiel au fonctionnement démocratique, ne sont pas épargnés par Modi qui n'a pas hésité à ordonner la censure d'un documentaire portant sur la complicité supposée de Narendra Modi aux événements de 2002 par la BBC, chaîne de télévision britannique. Par ailleurs, l'Inde est située au 150e rang peu flatteur du classement mondial de la liberté de presse de Reporters sans frontières. Persécution contre les minorités musulmanes, atteinte à la liberté de presse, étreinte juridique renforcée sur les opposants politiques et révisionnisme historique, tous les ingrédients sont réunis pour l'obtention d'une mixture autocratique en Inde. Les pays qui sont occidentaux, s'érigeant en défenseurs des valeurs démocratiques, se plongent dans un mutisme que la journaliste Sophie Landrin décrit comme un « silence complice ». Des exactions commises par l'Inde du fait d'enjeux géoéconomiques et géostratégiques conséquents autour du sous-continent. La mère des démocraties de Narendra Modi est souffrante, l'ombre d'une Inde autocratique plane sur elle.
Oh, wow. Non, Dark Vador. Ça fait un peu ça à la fin.
Ça fait vraiment penser à 1984. C'est vraiment le même schéma, mais dans la vraie vie. Genre, c'est pour ceux qui l'ont lu, c'est vraiment ça. C'est genre les manuels scolaires sont complètement modifiés. En fait, c'est tout est effacé et amélioré dans le bon sens des dirigeants.
Il y a une petite nuance. Effectivement, ça rappelle un peu le schéma d'Orwell. Sauf que ce que décrit donc George Orwell dans 1984, c'est un régime totalitaire. Ouais. Où là, il y a un seul parti politique qui est intégré dans l'appareil étatique. Et chaque citoyen est tenu de se soumettre au pouvoir politique et d'être actif, alors que dans un régime autoritaire, ne pas faire de politique est là, au contraire, pas suspect. Au contraire, si le gouvernement a des citoyens qui n'agissent pas et qui ne s'opposent pas à lui...
Oui, c'est genre tais-toi et fais ce qu'on te dit. Quoi. Ouais,
c'est voilà, c'est ça, ça va dans ce sens.
Je voulais poser une question au niveau de la justice. T'as parlé du coup de l'utilisation du nom, c'est ça que j'ai pas compris, genre...
Légalisme autocratique.
Non, qu'il avait...
Pourquoi genre l'opposant...
Oui, il a été jugé, pourquoi t'avais dit...
Oui, parce qu'il s'était moqué du nom de famille Modi, parce que Narendra Modi porte un nom de famille qui est fréquemment porté en Inde, et entre autres par un homme d'affaires et aussi par quelqu'un qui a été condamné pour vol. Et donc Rahul Gandhi, qui est l'actuel opposant principal de Narendra Modi, en 2019, c'était lors d'une prise de parole publique, si je ne m'abuse. Là, j'invite les auditeurs à se renseigner à ce sujet parce que je ne confirme pas la véracité de mes propos parce que je me base sur mes souvenirs personnels. Mais il avait donc dit que le nom de famille Modi était un nom de famille de voleur.
Ouais.
Et donc, ce fait a servi de prétexte.
C'est pas cool, j'avoue.
Très sympa.
Est-ce que ça mérite d'être interdit d'élection
Voilà. C'est effectivement là que la question se pose. Parce que sous le couvert juridique, comme l'a décrit le politologue Gilles Vernier, qui est professeur justement en Inde, eh bien, Rahul Gandhi a littéralement été exclu de l'arène politique indienne. Et de ce fait, il n'y a plus d'opposition pour l'instant.
C'est un boulevard, là, du coup.
Voilà, ça paraît ainsi. Après, bon, je mets de côté toute analyse politique de ma part.
Oui.
Mais on décrit les faits tels qu'ils se sont produits. Et c'est ce qui s'est passé donc, en mars dernier avec la mise à l'écart de Rahul Gandhi.
Oui.
Voilà.
T'imagines si c'était le cas en France, genre si personne pouvait critiquer Emmanuel Macron, que ce soit média ou même politicien de base, ce serait le sbeul, tu vois.
Bah oui, surtout qu'en France, on aime bien râler,
on aime bien râler, on aime bien se moquer, donc.
Non, ça serait finito, il y aurait plus personne.
C'est ça.
Mais en vrai, l'Inde en soi, elle est hyper intéressante en analyse, que ce soit genre social, économique ou culturel. Je sais que en cours au lycée, je l'ai beaucoup étudié, surtout en anglais en fait. Sur le système de castes, etc.
C'était
hyper intéressant. Alors, je sais plus le nom des castes, parce que c'est des noms hyper compliqués. En plus, il y en a trop.
Oui, c'est clair.
Mais en gros, pour celles et ceux qui ne savent pas, en fait, la société indienne, elle est encore aujourd'hui répartie en 7. Je crois qu'il y en a 7 castes.
Je ne saurais pas dire, là, pour ce...
Mais en gros, c'est une sorte de pyramide sociale, mais vraiment vénère, quoi. Où en fait, tu as les tops, genre les cadres, docteurs. Après, tu as... Les prestigieux, mais un peu moins, et encore un peu moins. Et après, tu as la classe moyenne, voilà, les average. Après, tu as les paysans, tu as les out of caste, qui ont un nom particulier, mais pareil, je ne me rappelle plus. Mais là, c'est vraiment...
Et du coup, suivant le métier ou ta famille, c'est soit le métier, soit la famille, je suppose, c'est les deux. Plus ou moins bien classé, mets ça avec des guillemets.
Et c'est impossible, enfin, c'est pas impossible, mais... carrément impossible de sortir de ta caste.
Ah oui, d'accord.
À moins de faire vraiment un truc de ouf dans les deux sens du terme. Que ce soit bien ou pas bien.
Ça conditionne, t'es né, t'es un peu déjà conditionné.
En fait, c'est un peu comme les PCS en France, mais en vénère, quoi.
Les
PCS,
les princes.
Catégorie socioprofessionnelle.
Mais je n'ai pas la traduction de PCS, parce qu'à l'origine, on parle de CSP. Oui. Bah là, Audrey, sociologue, tu sauras nous dire.
Ah là, les PCS, je les ai étudiés du lycée jusqu'à la fac. Je le connais.
D'accord, ok.
Tu sais, en gros, c'est cadre, après, tu as employé, tu as ouvrier, artisan,
chef d'entreprise.
D'accord.
Agriculteur aussi, je crois, c'est une caste.
Et du coup, c'est un peu classé.
C'est classé, mais c'est moins. En fait,
c'est connoté, quoi. Genre,
c'est ça, mais sauf que la différence, c'est que vraiment, les PCS en France, c'est juste histoire de cadrer un peu la société pour un peu, tout ce qui est un peu catégorie socio-professionnelle, surtout axé sur le métier.
Okay.
Que les castes, c'est vraiment, ça te décrit, enfin, ça te, comment dire, te prévoit ta vie.
Ok.
À l'avance, quoi.
C'est une forme de déterminisme, mais officiel.
C'est des déterminismes, mais ouais, c'est ça. Genre, si tu es né out of caste, donc dans les bidonvilles, tu nais dans la terre, finalement, tu y restes.
Ouais, tu restes de terre.
Je conseille d'ailleurs c'est un sujet d'ailleurs qui est très intéressant dans le film Slumdog Millionaire.
Jamais vu.
Je te le conseille.
Ouais, c'est un bon film.
Très, 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 très bon film. En gros, c'est l'histoire, c'est un, bah en fait, c'est voilà, c'est un gamin qui est bas dans l'échelle sociale et en fait, il va participer, qui veut gagner des millions version Inde. Mmh. Et en fait, tu auras tout son périple et en fait, chaque question est en rapport à son périple et c'est hyper intéressant. Je te conseille.
Ouais. Et ça s'écrit comment ?
C'est Slumdog, donc comme bidonville en anglais.
Ok, ça marche.
Et millionnaire.
Millionnaire. Ok, ça marche.
Eh bien, merci beaucoup, Paul, pour ça. Ça a permis de dégouler sur un petit débat. je vois l'heure qui file. On a un interview de Seb. Et juste avant, du coup, on va se mettre une petite pause musicale juste avant d'envoyer l'interview. Et pour cette deuxième pause musicale, on va se déplacer du côté de la capitale française, Paris, avec l'artiste Tatiana... Tatiana, oui c'est ça en fait, oui, ça, c'est parce qu'il y a un Y, j'ai bugué. Jane, Tatiana Jane et son titre Psaumi 92, 80, voilà, je...
Tu crois qu'on aura le temps de le mettre ?
Psaumi, genre on a le temps. Êtes-vous seulement prêt et prête ? On va s'attacher les cheveux et les ceintures, parce qu'on a, on va sacrément être décoiffé. On assiste du coup à un titre avec un mélange d'Aphex Twin, d'Amapiano, drum and bass, rire d'enfant, kick saturé version grand méchant loup et des mélodies toutes douces, toutes mignonnes qui sont là, qui se promènent dans les champs. Elle sera présente à Terre du Son 2023, le vendredi de 22h à minuit sous le chapiteau, étant programmée comme DJ House, hip-hop, trap, électro. Voilà, bon, c'est un peu un fourre-tout, quoi.
C'est un petit micmac.
Elle mélange beaucoup de genres. Si vous voulez un avant-goût, n'hésitez pas à streamer ses morceaux sur toutes les plateformes et à mater son DJ set sur la fameuse chaîne Aor Berlin. Berlin. Tatiana Jane, je pense que voilà, les amateurs de musique électronique connaissent. Du coup, on met son titre Psaumi 92 et on revient juste après pour l'interview de Seb.
Kick.
va pas mettre tout le son, mais n'hésitez pas à streamer Tatiana Jane. On va laisser la place du coup à Seb qui va faire la fin de l'émission finalement.
C'est ça. Et oui, on va diffuser une interview toute fraîche de ce matin faite par notre gourou Seb.
C'est pour ça, genre, elle me faisait des gros yeux parce qu'il fallait absolument que je passe Seb.
Bah oui, attends, on a promis.
Ah, on a promis. T'as promis toi?
Bah oui, j'ai promis.
Moi je suis anarchiste.
Donc avec le trio donc de musiciens Chams Trio, je sais pas comment on prononce. Donc Chams Trio, on va dire, qui feront un concert donc ce jeudi soir à 20h30 à la salle Okegheim. Donc c'est un trio composé de la violoniste Sarah Collomb, du percussionniste Jihab Chouibi et du joueur de oud Mohamed Kala. Ils se sont rencontrés en Palestine, à Ramallah, autour d'une passion commune pour le violon et la musique orientale. Depuis, ils proposent un répertoire de reprises et de compositions. Et donc, dans cette interview, ils reviennent sur leur rencontre, mais aussi sur la place de la musique dans la société palestinienne et les difficultés pour les musiciens palestiniens à vivre de leur musique. Et donc, on écoute ça tout de suite. Ouais. On vous dit au revoir maintenant aussi.
Oui, comme ça, on met tout. Ouais.
Comme ça, voilà, on libère notre invité.
Exactement.
Je peux rester. C'est toujours.
Et quand même, on dit au revoir du coup à Paul, quand même. En tout cas, pour cette saison, je ne sais pas si tu veux revenir après plus tard. Tu fais comme tu veux. Ne me donne pas une réponse maintenant. Mais voilà, et puis nous, voilà, on se dit au revoir. Toi, tu es là demain quand même.
Demain, oui, on sera en direct de l'EVS Roche-Pinard avec la Maison des Quartiers.
Et du coup, voilà, et puis moi, je vous dis rendez-vous pour Terre du Son, au moins, ça c'est sûr. Et puis voilà.
Et moi, est-ce que je peux dire au revoir?
Vas-y, je t'en prie.
Merci en tout cas de m'avoir reçu dans Sortez, parce que c'était un vrai plaisir de venir. Bon, le temps de trois enregistrements d'abord, et puis ensuite trois directs surtout.
Ah, quand même.
C'était fun.
Ouais,
le
plus
premier
fun,
avec les petits bouchons et Anne-Marie, ensuite avec
Morgano.
Pour une spéciale 100% Sortez.
C'est ça.
Et aujourd'hui donc pour clore le bal. C'était un vrai plaisir en tout cas de pouvoir échanger. J'espère que vous aurez appris des choses propos des sciences humaines et sociales, et principalement des cartes et de la géo. Et puis au plaisir de vous retrouver en tout cas une prochaine.
Bravo pour ce discours quand même.
Maintenant, la géographie n'aura plus de secret pour nous.
Exactement. Et on va laisser du coup la place à Seb. Seb, c'est à toi. Et au revoir à tous.
Au revoir.
Bisous.
Seb, on se retrouve ce soir sur le 99.5 Radio Campus Tour pour une interview de Chams Trio. Alors Chams Trio, c'est un trio franco-palestinien ou palestino-français, composé de Sarah Collomb au violon, de Mido Kala au oud et Jihad Chouibi aux percussions. Leur répertoire, un peu spoilé, même si on en saura davantage avec l'interview, ce sont des reprises et compositions de musique du Moyen-Orient, et ils seront en concert le jeudi 29 juin à 20h30, salle Okegheim à Tours. Alors, petite précision, l'interview sera en français, aussi en anglais et peut-être avec aussi un peu d'arabe, on fera ce qu'on peut. Tout de suite, pour commencer, mon niveau A1 d'arabe dialectal marocain de Darija me fait dire que Shams, c'est le soleil en arabe, est-ce exact? Shams in Arabic language, if my Darija level it's enough good, it's the sun in Arabic, Shams, that's right.
Yes.
Ouais.
Sarah, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le nom? Pourquoi le soleil?
En fait, j'étais en Palestine, j'ai rencontré les gars là-bas. Et voilà, c'est ensoleillé le Moyen-Orient, beaucoup plus. Enfin, maintenant, on ne peut plus dire ça en France.
Non.
Parce qu'il y a la canicule tout le temps, mais je veux dire, pour moi, c'était quand même un peu symbolique d'un moment, du plaisir que j'avais à rencontrer tout le monde là-bas. Et puis aussi, ça sonne bien et facile en France pour les Français. Donc, je trouvais que c'était pas mal. On a pris cette décision ensemble, de toute façon. Et voilà.
Bah, c'est bien, tu me permets d'enchaîner sur la suite. Justement, j'allais venir, le trio Soleil, comme le soleil de la Palestine et de Ramallah. C'est la ville, je crois, où vous êtes rencontrés. Comment s'est passée cette rencontre? Comment s'est construit ce trio?
Oui, alors en fait, je me suis intéressée à la musique du Moyen-Orient, parce qu'au niveau du violon, c'est juste énorme, il y a plein de choses à travailler, c'est passionnant. Et donc je me suis rapprochée d'une association qui est basée à Angers, qui s'appelle Al-Kamanjati, et qui est aussi à Ramallah, et en fait qui depuis 20 ans enseigne la musique classique et arabe là-bas en Palestine, et notamment à Ramallah, mais aussi dans des camps de réfugiés, dans d'autres villes. Et je suis arrivée pour donner des cours, participer aux cours que donnent les profs avec les jeunes et tout ça. Et là, j'ai rencontré d'abord Mido. Et en fait, moi, je suis venue, c'était aussi un prétexte pour apprendre la musique arabe, pour connecter avec des musiciens. Donc, j'ai rencontré Mido et d'autres personnes qui m'ont donné des cours, qui m'ont permis de me baigner dans cette musique, dans son organisation interne, etc. Et voilà. Et après, en fait, on a enregistré, enfin, on a commencé à jouer ensemble pour le plaisir et tout ça. Et on a aussi enseigné ensemble, etc.
On peut demander aussi à Jihad et Mido, did you remember when you met Sarah when she came in Ramallah, see a French musician interesting by your music?
Yes, sure. We meet in Al Kamanjati. We was have a workshop for kids in the camps, and camps called Kalandia. Was have a workshop there, and I meet Sarah there. She come to a workshop for jazz.
Je donnais des cours. I teach students and also little
yeah,
jazz.
Yeah, yeah. And we meet, and she start to ask me, what's the Arabic music, and we start talk about Arabic music, and we play together, and we meet other time.
Vous avez parlé de musique, on comprend que tu as posé des questions, en tout cas tu t'es intéressé à leur pratique musicale, et puis c'est comme ça après que vous avez commencé à jouer ensemble, après que tu te sois intéressé, je crois que c'est un peu ce que nous expliquait Mido.
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... En fait, Mido, c'est le premier prof que j'ai rencontré, je connaissais personne, et on était trois profs, on est partis au camp de Kalandia. Et là, Mido, en fait, il parlait pas beaucoup anglais, donc on savait pas trop comment communiquer. Et puis il jouait comme ça les taksim avec les makam et tout. Et moi, j'ai commencé par lui dire, Mido, makam, what's a makam, makam. Et après, il a commencé à m'expliquer les règles et tout ça. Et en fait, on s'est pas arrêté d'en discuter dès qu'on sortait, je posais beaucoup de questions parce que je voulais comprendre assez vite. Parce qu'en fait, je m'étais intéressée un petit peu en France déjà. J'avais rencontré des gens qui sont sur Paris qui jouent cette musique, mais j'avais pas vraiment le temps de m'immerger. Et je pense que comme c'est une culture aussi, l'immersion, c'est vachement important en fait pour ressentir les choses. Et du coup, voilà, moi, j'ai essayé de poser beaucoup de questions tout le temps, jusqu'à comprendre un petit peu le fonctionnement de la musique. Et après, on a joué ensemble aussi.
La musique du Proche et Moyen-Orient, c'est un ensemble vaste qui englobe des multitudes d'univers musicaux et culturels. Je lisais récemment un article qui parlait de l'indémodable Férouz. On a un vrai intérêt porté par les études musicologiques sur les divas d'Afrique du Nord aussi, depuis peu. Où allez-vous puiser votre inspiration? Parce que c'est vrai que c'est un ensemble très vaste, le monde de la musique orientale. I was saying that oriental music, it's a very large universe. And people in France is very interesting by it is a kind of music, and I was learning an article about Férouz, and it says that Férouz still
the most famous
very
singer,
famous very listening now. And what are your inspiration in this very large musical universe?
Okay, it's about Férouz. Okay, I think Férouz, she's a great singer, and like she put some lyrics for her, especially the last album for her, like the whole songs like from France, 9%, 90% like from the songs from not for her. And I think she take the copyright and like to make it mixed between Arab music and Europe one or French one. And the amazing thing like to mix Arab and European music with like to make like a nice melody with nice lyrics. It's if it's music, instrumental, not lyrics, there is no singing. It's amazing because the oriental one, there's a quarter tone, like we play it on Arab style, and like it's not founded in Western music, like European music. And the mix, this mix, like it's amazing when they have like amazing arrangement and.
Rapidement, que Férouz, voilà, c'est une des plus connues et surtout elle a fait vraiment la connexion entre la musique arabe et la musique européenne avec des arrangements incroyables, notamment par son fils, his son, ouais. Makes arrangement.
Yes.
Son fils faisait des arrangements jazz also.
Jazz also.
Et du coup, c'est vraiment elle qui a un peu réuni tout le monde. Il y a même des choses qui viennent de Russie, des thèmes russes, beaucoup, qu'on entend dans ses chansons. Et effectivement, nous, on joue plusieurs chansons de Férouz. On en joue au moins 4. Je pense que voilà, c'est un peu une indémodable, quoi.
Il y a quelques semaines, quelques mois, il y a eu une journée d'études ici qui était à Polytech, qui s'est fait dans les locaux de Polytech, pas très loin, justement sur les passerelles entre musique française et européenne et musique orientale, et notamment d'Afrique du Nord. Une des choses, c'est la réponse de Gilad qui m'y fait penser, assez curieuse, qui avait été évoquée, c'est que par exemple, Paris était une des villes les plus importantes en termes de production de musique arabe au monde. C'est-à-dire qu'il y a des grandes villes de production de musique arabe, c'était Beyrouth, Le Caire, et en fait Paris, qui était une ville où il y avait beaucoup de studios d'enregistrement et beaucoup d'albums de grands artistes de musique orientale se sont enregistrés à Paris. Et du coup, Paris était une des grandes villes de la musique arabe. I was saying that any weeks ago, here a professor said that Beirut and Cairo are big city in oriental musical production, but also Paris. Many oriental musicians lived in Paris, and finally Paris is an important city in oriental music production.
Yeah, because the system also, system organization, I think, the system for musicians, how like they can protect his songs and his melodies around the world. Because in Lebanon or in the like Egyptians, like you are limited to how you like show the world, the whole world, your music. In France, there is a big opportunity because the system, like the system here, work very well for the culture and art.
Ça tient aussi ce que je viens d'expliquer à la façon dont l'industrie musicale est construite et aux structures aussi qui existent et qui sont en place et qui permettent peut-être plus facilement justement de diffuser, de produire en fait cette musique. Justement, puisqu'on parle de la musique toujours, quelle place occupe la musique dans la culture palestinienne? On sait que le patrimoine culturel palestinien est important. L'autorité palestinienne a intégré l'UNESCO, les instances de l'UNESCO, il y a quelques années. Donc ça, c'était un temps fort. Quelle place occupe la musique et le genre de musique que vous jouez en Palestine, dans les territoires palestiniens?
Bah, je vais répondre de mon point de vue, puis après, je pense que le leur sera pas le même. Moi, quand je suis arrivée, j'ai été surprise parce qu'à Ramallah, il y a pas mal d'écoles de musique, en fait. C'est plus ou moins grosse. Donc, il y a Al-Kamanjatim, il y a aussi Edouard Saïd, Baron Boy Saïd et encore d'autres. L'enseignement musical est très présent parce que je pense qu'en fait, en Palestine, avec l'occupation militaire, la violence du quotidien, c'est une façon de survivre, quoi, et d'exporter aussi la culture. Et donc, il y a pas beaucoup de gens qui travaillent aussi à l'enseignement pour les enfants, pour qu'ils aient des activités extrascolaires et qu'ils soient un peu épanouis malgré le contexte. Et il y a beaucoup de musique classique, finalement. Ils enseignent beaucoup la musique classique. Et il y a des musiciens étrangers qui viennent en fait assez régulièrement, qui sont invités pour des workshops ou qui travaillent à l'année là-bas. Et après, il y a tous les instruments traditionnels comme le oud, les percussions, le ney... Et aussi un petit peu le violon, même si au violon, c'est encore assez axé classique. Mais après, il y a beaucoup de musiciens qui se mettent à la musique arabe par eux-mêmes. Voilà. Mais effectivement, il y a aussi l'enseignement de la musique arabe dans ces écoles à travers les instruments traditionnels. Après, moi, ce que je peux en dire, c'est que c'est beaucoup basé à Ramallah, Bethléem. Après, c'est de plus en plus difficile. Hébron, Jenin, c'est des villes qui sont plus excentrées, où il y a encore beaucoup plus de conflits avec la colonisation, l'armée. Donc c'est plus difficile d'aller enseigner, mais il y a quand même des centres qui ouvrent. Al-Kamanjati, ils ont un centre à Jénine et ils sont en train d'ouvrir un à Hébron. Donc ça, c'est, bah voilà, c'est super qu'ils fassent ça et on espère que ça va se poursuivre. Mais peut-être qu'on peut le poser la question de leur point de vue, comment c'est.
Which place music in the Palestinian culture?
In general, like there is a big music schools in Palestine, like Al-Kamanjati, Edward Said Foundation, and the opportunity to make concerts, and like if there is many concerts there or no, it depends on the political situation, because you know, in Palestine, like it's happened. Soldiers kill someone, soldiers kill five people, soldiers went to Jenin. And because this happened in Palestine, West Bank, like the art department, like concerts, theaters, everything, like canceled. Like musicians will be happy if there is like a opportunity to get a quiet day without any problem to make like any projects or anything. So it's not good, not bad, but still a little bit bad for the music.
Y a, comme je disais en français, il y a beaucoup de musique et d'écoles de musique, mais le problème, c'est qu'avec l'occupation, il y a beaucoup de concerts qui sont annulés, quoi, quasiment un sur deux. C'est... Nous, quand on y était, on voulait jouer... voilà, on a fait une semaine d'orchestre avec, je sais pas, 50-60 musiciens. Et en fait, le jour où on faisait le concert, ben, ils ont attaqué Gaza. C'était l'été 2022, fin juillet, 25 juillet, ou je sais plus.
Ouais.
Et du coup, le concert a été annulé. Et en fait, du coup, j'ai pris conscience à ce moment-là de ce que c'était, parce qu'ils me racontaient, mais pendant 2-3 semaines, ça avait été assez calme. Et tout d'un coup, concert annulé, et les deux concerts annulés. En fait, c'est tout le temps comme ça, mais vraiment tout le temps, quoi. Y a pas... Et là, ils ont fait un festival, Al-Kamanjati organise the festival, well, and they cancel how many?
The first 4 days in Nablus, they cancel everything because the soldiers like attack Nablus and take maybe kill six people. They also cancel the first 4 concerts.
Oui, et même si c'est pas dans la ville, par respect pour les victimes, ils jouent pas, en fait. C'est...
Oui. Oui, ça paraît incongru d'organiser un concert dans une ville qui vient d'être attaquée. Parler de l'école Al-Kamanjati, je voulais aussi savoir, demander comment sont financées ces structures, parce qu'effectivement, nous, on parle de notre point de vue, là, en France, où voilà, on a quand même un ministère de la Culture et des choses qui existent qui sont voilà, très, très importantes pour faire exister toute pratique artistique. Je voulais savoir, du coup, dans les territoires de l'autorité palestinienne, comment fonctionnent ces structures-là pour que les gens puissent avoir des instruments, suivre des cours, payer les professeurs. How they work, for example, Al-Kamanjati, which money to...
Where come from the money and how they get the instruments and everything?
At the beginning, Ramzi Abradouan created Al-Kamanjati here in France, in Angers. And the idea for Al-Kamanjati to let anyone who can't reach the music, especially in Ramallah and camps in the West Bank, to like learn some music, and they have the right to learn music, whatever they don't have money or they don't have like a time, or and they open in many camps, and Kalandia camps, Chalazon, Burj Al Barajne in Lebanon, also there is one in Deir Ghassani, and we will hope like to become like to every camps in Palestine, and who live in camps, like he take special how you say dealing, like dealing with him special treatment, yeah. Like with him, because he don't pay a lot, he pay just like a little, just to push them to learn and forget about the monies and something like that. And Al-Kamanjati like give the students instrument because the center for Al-Kamanjati here in Onje, and they connect with other centers in Ramallah. Like if you need instrument, if you need money, like all is connecting. And for other places like Ramallah, it's not too much for a kids who want to learn music. So it's organization actually, not profit organization, just to let the people learn music and push them to, this is life, you can learn music.
Dia a expliqué que Al-Kamanjati est basé à Angers en France, et donc a monté cette école à Ramallah. C'est Ramzi Abou Redouane qui a l'initiative, mais il est entouré maintenant d'une équipe d'une bonne dizaine de personnes. Et en fait, ça a commencé 20 years ago, Al-Kamanjati.
Ouais.
Il y a 20 ans. Et en fait, le principe, c'est vraiment d'apporter la musique dans les camps et vers les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des instruments. Donc du coup, dans les camps, c'est quasiment gratuit. Ils donnent les instruments, c'est vraiment presque donné. Et à Ramallah même, là, pour le coup, c'est plus comme une école normale. Après, je pense que ta question, c'était plus sur le financement de l'association. Alors, moi, je ne sais pas trop parce que je n'ai pas mis les nez dedans, mais ce que j'ai observé, c'est qu'ils ont tout le temps des meetings à Jérusalem, tout le temps des meetings avec des institutions, des ministères du monde entier, en fait, qui financent, qui aident. En fait, clairement, la Palestine est sous perfusion. Enfin,
oui, il y a des solidarités internationales, bien y compris sûr. Dans les domaines culturels et musicaux, qui permettent.
Bah oui, et c'est grâce à ça qu'ils ont pu venir aussi, parce que en fait, en France, on n'aurait jamais pu retrouver de quoi financer leur billet d'avion comme ça un mois avant de partir. Eux, ils ont réussi parce qu'en fait, voilà, c'est la Palestine survit grâce à la culture, beaucoup d'associations culturelles pour les enfants, pour qu'ils aient une vie décente d'enfants malgré leurs conditions, même de l'État palestinien, l'autorité palestinienne, les écoles, c'est un peu.
Il y a des carences.
Oui, il y a beaucoup de carences. Donc voilà, tout ce qui est culturel, ça vient aussi de l'Europe, ça vient de partout. La Palestine est sous perfusion en fait à tous les niveaux, et c'est très triste. Mais voilà. Mais je sais que c'est critiqué. Il y a des gens. J'entends souvent depuis que je suis revenue de Palestine qu'on me dit. Non, mais toutes ces assos, elles profitent et tout. Mais moi, j'ai envie de dire, en même temps, l'occupation,
Oui, puis c'est de la musique.
La colonisation, c'est d'une telle violence. Qu'est-ce qu'on va reprocher aux gens, même éventuellement, d'utiliser ça pour essayer d'améliorer les choses ou...
Oui, là, on parle de violon, de oud et de derbouka. Donc,
oui, ça va, c'est clair.
Justement, c'était la question suivante. Quelques mots sur les conditions dans lesquelles s'exporte la musique des artistes palestiniens. La réponse est contenue en partie dans la question, mais est-ce que c'est facile de partir jouer à l'étranger quand on est un musicien palestinien, mais en dehors même juste déjà des territoires de Cisjordanie, et est-ce qu'il y a des réseaux d'entraide? On vient en partie d'en parler. Donc je te pose la question, Sarah, mais on posera aussi la question à Mido et Jihad.
Il y a des instituts qui aident et qui financent les tournées des musiciens, effectivement. Al-Kamanjati, ils envoient très régulièrement. Là, par exemple, Jihad, il va repartir en Belgique en août. Et nous, on a pu obtenir un peu d'aide pour qu'ils viennent ici. Et il y a souvent des tournées à travers l'Europe. Et je pense qu'il y a des pays comme la Belgique, la Hollande, qui sont plus connectés encore même qu'en France. Mais Jihad, maybe...
How Palestinian musicians can export their music in Europe, inside the Arabic world? I think about Egypt, for example. If it's easy to going outside to play your music, and if there is some solidarity links to help Palestinian musicians to go outside their country to play their music.
We had many festivals. We play on it, like Festival de la Humanité, before 6 years in France. And there's many projects with Belgium also, because we create fanfare in Al-Kamanjati with Belgium teachers, and we have a workshop in August there. For the musician, how they travel to Europe, it's not difficult, but like there should be like a paper invitations with the organization from there to like invite them, because in Palestine it's hard to deal with the like permit to go to Jerusalem or to get a visa from there if the consulate. If there's a like consulate in Jerusalem, it's hard to get the visa because sometimes they cut the permit to go there.
Il disait notamment, enfin, un peu la même chose que ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets qui sont faits en partenariat avec d'autres pays d'Europe. Et aussi, à la fin, il disait que, en fait, voilà, pour aller ne serait-ce qu'à Jérusalem, qui est à peu près à 20 minutes de Ramallah, bah, parfois, ce n'est pas possible parce qu'il faut un permis, en fait. Il faut comme un visa, mais juste pour aller du côté israélien. Donc, le consulat, il y a un consulat qui est là-bas, ce n'est pas toujours facile de s'y rendre pour les rencontrer et tout ça.
Et je voulais savoir, là, on parle donc du concert qui a lieu jeudi soir. Donc, on rappelle, c'est salle Hockey Game à Tours. Est-ce qu'il y a d'autres dates prévues pour vous, là, dans l'été, sur Tours ou ailleurs?
En fait, on fait une tournée. Et on a eu nos deux premiers concerts à Laval ce week-end, le week-end dernier, là, hier, samedi et dimanche. Jeudi, on joue à Hockey Game. Dimanche, on joue à Vaugarny. Théâtre de Vaugarny, 16h, je crois, à vérifier. Et ensuite, on va faire une activité pédagogique à Vendôme, parce que c'est là que je travaille. Et après, on va en Loire-Atlantique, Saint-Nazaire le 7, Oudon le 8, Le Croisic le 9. Et ensuite, on va à Douarnenez en Bretagne, et on joue à Douarnenez et à Pont-Croix. Et ensuite, on revient sur Paris le 18 juillet, avant qu'ils reprennent leur avion.
Ça tombe bien que tu parles de pédagogie. J'ai vu le prix des places, il y a des places à 5, 10 et 15 euros. Alors, je n'ai pas le détail et les modalités, si tu les connais, je veux bien après qu'on en parle pour le concert de jeudi. Mais si on doit donner envie à des gens qui sont complètement profanes, qui ne connaissent pas cette musique-là, qui se disent peut-être que ça fait partie des musiques savantes et que non, la musique orientale ou arabo-andalouse, c'est pas pour mes oreilles. Tu parlais de pédagogie. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là pour dire que bah non, en fait, c'est pour tout le monde et que c'est cool d'aller écouter du Mazar, du Oud, du Bouzouki ou que sais-je.
Ah bah oui. Il n'y a pas de restriction pour les oreilles. En plus, on joue beaucoup de chansons populaires que, voilà, que tout, en fait, là-bas, c'est comme Brassens, Jacques Brel. Les gens chantent. Si on joue ces thèmes, tout le monde va les chanter dans les bars et tout ça. Et puis après, je pense que maintenant, aujourd'hui, la musique arabe, elle est un peu partout dans la musique occidentale, dans les musiques actuelles et tout ça. Donc, bon, nous, on reprend des choses de façon, je veux dire, instrumentale, un peu traditionnelle, mais. C'est pas forcément élitiste, quoi. Voilà.
Et est-ce que c'est aussi une musique on parle des représentations là, mais est-ce qu'en Palestine même, auprès par exemple des plus jeunes, c'est une musique aussi qui pâtit ou au contraire qui jouit de cette même réputation, ou c'est comme partout
Bah, je trouve que c'est un peu comme chez nous, c'est-à-dire que moi, les jeunes que j'ai rencontrés, ils étudiaient pour la plupart le classique quand même. Donc, comme tout le monde, au bout d'un moment, l'école de musique et les cours et le solfège, on en a marre et on s'intéresse à autre chose. Moi, à cette époque-là, je m'intéressais au jazz. Mais là-bas, bah, ils s'intéressent du coup à leur musique traditionnelle et ils se tournent vers la musique arabe. Mais certains aussi au jazz, d'ailleurs, j'en ai rencontré. Mais peut-être que Djihad et Mido, ils peuvent mieux répondre à cette question.
I think the music, all the music in the world, same one language. Mm. And they can... learn Arabic music, anyone in the world. And same, if we want to learn jazz music, we can do this. Same thing. Mm.
For example, I think about the American singer Beyoncé. In many of his tracks, there are Fairuz sample. For example, she sample Fairuz, and without know, some young people here listen Beyoncé And finally, they listen Pharaohs too because it's an Arabic sample in the Beyoncé song. Yeah.
Yes, because the feeling, I think, the sound of Pharaohs arrived inside me, for me.
But the kids, they like to learn, they want to learn in...
Like in Palestine, especially?
In Palestine or in...
Maybe it's like hard for kids to listen to really classical Arabic music. But like in Palestine and the whole Arab country, like it's the formal music for them. Like they hear it all the time. Like من مزرعتي ومن تل العطار دا تيرا دا 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 دا. It's a folk music, so we hear it all the time. The national music for Palestine, like. All the time in our ears, but like you can found like kids or boys and girls like love to listen to other musics. Like I hate this music. I wanna listen to I don't know African one or American. Yeah, but it's easy to learn for Arabic or Arabic people. But some kind, it's not like less easy for the who like live outside because the quarter tone, like it's something like you can't like reach it exactly. You need just to listen too much and to feel.